retrouver Rose pour l'émission Contradiction sur IDFM Radio, un temps dédié aux gens qui se donnent du mal pour aller bien.
Le désir, c'est l'essence de l'être humain, c'est cette puissance vitale qui fait qu'il a envie de progresser, de grandir, de s'accomplir. Et donc, ce n'est pas lié qu'au manque. On a du désir manque, on a du désir puissance. Et le tout, c'est de passer de plus en plus du désir manque au désir puissance.
Je suis Rose, et ensemble, dans cette nouvelle saison de Contradiction, nous allons continuer d'étudier ce qui nous manque à l'intérieur et que nous n'avons de cesse de chercher à l'extérieur. En comprenant mieux les mécanismes de nos dépendances, nous essaierons d'aider ceux qui en souffrent encore, de près ou de loin, mais aussi ceux qui en souffriront peut-être plus tard, nos enfants. Quels sont les liens entre troubles mentaux, profils neuroatypiques et addiction? Quels sont les horizons, les espoirs et les découvertes auxquelles nous raccrocher? Si l'addiction est une maladie dont on ne guérit pas, comment vivre avec dans les meilleures conditions possibles? Aux côtés d'auteurs, de médecins, de psychologues, de philosophes, de politiciens, de personnalités diverses, anonymes ou moins, plongeons ensemble au cœur de nos contradictions.
L'addiction est au centre des réflexions philosophiques depuis l'Antiquité, bien que ce terme ne soit jamais directement employé. Elle peut être explorée sous différents angles, avec diverses notions, souvent reliées à certains penseurs en particulier. La dépendance, pour Kierkegaard, l'aliénation dans le travail de Marx, l'esclavage pour Rousseau, le vice et la vertu chez Aristote, la compulsion chez Freud, l'attachement dans la philosophie bouddhiste ou le désir insatiable de Socrate. Mais c'est la philosophie de Baruch Spinoza qui reste cependant pour moi la plus puissante en matière de dépendance. Ce désir dont on ne peut se déprendre. Et c'est justement grâce à mon invité que j'ai découvert Spinoza. Nous étions en octobre 2017 précisément, et son ouvrage « Le miracle Spinoza » m'a accompagné sur la route de la sobriété et l'écriture de mon premier livre « Kérosène ». Frédéric Lenoir est un philosophe sociologue des religions, conférencier et auteur d'ouvrages traduits en une vingtaine de langues et vendus dans le monde à plus de 10 millions d'exemplaires. Il est largement reconnu pour sa capacité à démystifier des concepts philosophiques complexes et à les rendre accessibles au grand public. Après avoir été directeur littéraire aux éditions Fayard, rédacteur en chef de magazines théologiques ou producteur et animateur avec Lélie Anvar de la grande émission de spiritualité « Les racines du ciel » sur France Culture, ma préférée de tous les temps au passage, il écrit désormais des ouvrages nécessaires et brillants dont le succès révèle les maux de ce siècle, le manque de sens, l'aliénation et l'angoisse existentielle qui en découle. Il apprend aux enfants à philosopher et aux adultes à nourrir leur vie intérieure. Il clame qu'on est sur Terre pour grandir en liberté et en amour et affirme être devenu heureux à 35 ans. J'aurais aimé lire son dernier livre « Le désir ». Une philosophie avant de finir le mien, notamment pour toutes ces notions telles que la volonté, le désir, le plaisir, la liberté, la passion, entre autres, notions dont les frontières sont parfois floues pour la philosophe embryonnaire que je suis. Je suis donc heureuse de revisiter tous ces concepts avec Frédéric Lenoir ce matin dans Contradiction. Bonjour Frédéric.
Bonjour Rose.
Désolée pour cette introduction très longue, mais je pense que ta carrière l'a nécessité.
Ben en tout cas, c'est gentil, je suis touché.
Voilà. Dans ce podcast, nous avons l'habitude de commencer en demandant à nos invités quelle est leur définition de l'addiction.
Ben, ce qui me vient spontanément, l'addiction, c'est une perte de liberté, c'est un esclavage qui fait que, quel que soit l'objet de l'addiction, qui peuvent être extrêmement variés, hein, on peut être addict à plein de choses, on n'a plus de maîtrise sur les choses. C'est-à-dire, c'est plus nous qui sommes le pilote. Et il y a quelque chose en nous qui s'attache à quelque chose, à une habitude, une pratique, etc. Et on n'a plus la liberté de choisir. Donc, c'est quand même une perte de liberté.
Totalement. Donc, d'après toi, le plaisir, il est fugace, alors que la satisfaction est immédiate. Et il explique que nous pouvons ressentir du plaisir dans diverses activités, telles que manger, converser, jouer, mais que cette sensation n'est pas suffisante, car elle nécessite constamment d'être renouvelée. Donc, en fait, dès le début, on peut voir que naissent les dépendances de cette façon-là.
Tout à fait. C'est-à-dire que de toute façon, le plaisir a toujours besoin d'être renouvelé, quel voilà. que soit le type de plaisir. Mais dans l'addiction, ça va un peu plus loin. C'est pas simplement, par exemple, on pourrait dire, j'ai plaisir à écouter Bach ou Mozart, je vais écouter Bach ou Mozart, mais c'est un plaisir qui nous élève. L'addiction, lorsqu'on en parle de manière plus pathologique, c'est lorsque on ne peut pas s'empêcher de faire quelque chose, d'aller chercher du plaisir, mais dans quelque chose qui finalement ne nous élève pas. Et donc l'addiction à la beauté du monde, l'addiction à Bach ou Mozart, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est une addiction qui nous met dans la tristesse, une addiction qui nous empêche de grandir, de nous exprimer dans toutes nos potentialités, ou qui nous rend esclaves de quelque chose qui finalement nous détruit. Et donc c'est l'addiction au jeu, à l'alcool, aux réseaux sociaux, enfin tout ça qui fait qu'on peut pas vraiment s'épanouir profondément. Et donc on a besoin de ce plaisir, mais ça nous met dans une tristesse de plus en plus profonde, parce que c'est quelque chose qui nous rabaisse. Et donc, je dirais que rechercher le plaisir, c'est pas un problème. Mais lorsqu'on est dans une addiction à un plaisir qui ne nous permet pas d'être profondément nous-mêmes et libres et épanouis, et ben à ce moment-là, ça devient un problème. Donc, c'est pas le plaisir le problème, c'est le type de plaisir.
C'est un peu le mal de la société actuelle, justement, tu l'as bien dit, avec les réseaux sociaux. Dans ton livre, on en parle beaucoup. En fait, toi, tu te définis comme un symptôme de cette société. J'ai lu ça dans une interview où tu dis, en fait, quelque part, les gens ont besoin de revenir à des valeurs nobles qui font du sens, parce que, justement, les plaisirs, aujourd'hui, qu'on nous offre, comme le disait très bien notre ami Alain Souchon, des désirs qui nous affligent.
Qui nous affligent, ah oui, voilà. Formidable, foule sentimentale.
Foule sentimentale. Ah oui. On nous inflige
des désirs qui nous affligent. C'est ça.
C'est pour ça que les gens achètent.
Et prise d'idéal.
Oui, exactement.
De choses pas commerciales. Et on est dans une société consumériste dans laquelle on nous dit le bonheur, c'est lié à la consommation. Et on croit que parce qu'on aura une belle montre, parce qu'on aura une grosse voiture, parce qu'on aura de l'argent, qu'on sera heureux. Et en fait, non. C'est pas quelque chose qui nous épanouit. On a besoin, bien sûr, d'avoir un minimum de sécurité, de liberté, de confort. Mais après, croire qu'il n'y a que ça qui va nous rendre heureux, c'est faux. Et donc, du coup, il s'agit de s'émanciper de cette injonction permanente à consommer et être dans l'extérieur. Parce que ce qui nourrit l'être humain le plus, c'est l'intérieur. C'est l'amour, c'est la poésie, c'est la tendresse, c'est la lumière,
c'est l'amitié.
C'est tout ce qui est invisible, ce que disait Saint-Exupéry. L'essentiel est invisible pour les yeux.
Ce qui est invisible pour moi, c'est la spiritualité.
La spiritualité, c'est tout ce qui nous fait grandir. C'est tout ce qui nourrit notre vie intérieure. Or, la société dans laquelle on est valorise que l'extérieur, ce qui se voit, ce qui impressionne, parce qu'on est dans la comparaison sociale.
Les choses qui vont vite aussi, en fait, l'impression.
Choses qui vont vite, qui manifestent la puissance, la compétition. Donc on est dans des valeurs globales d'une société qui sont à contre-courant de ce qui, à mon avis, rend le plus profondément l'être humain heureux. Et donc il s'agit de résister à ça et d'être à contre-courant. D'ailleurs, Aristote nous dit, le philosophe, c'est celui qui remonte le fleuve à contre-courant. Il ne faut pas être embarqué par le flux dominant. Il faut, par l'intelligence, par la réflexion, par l'esprit critique, résister. Et aller, en fait, vers ce qui est bon pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est un travail personnel qu'on doit faire encore plus aujourd'hui, où il y a une puissance d'un matraquage marketing, publicitaire, etc., qui nous entraîne tous collectivement vers des dépendances, vers des choses qui nous rendent, au fond, pas heureux.
Et contradictoirement, on a aussi accès à plus de contenu, justement, les livres audio. Moi, j'ai lu beaucoup de livres audio cette année, dont les tiens, Jung, un voyage vers soi, en fait, c'est ça. Jung aussi, on est Bergson, Jung, tu es un disciple, en fait, de Jung, ces philosophes-là. Et aujourd'hui, on a accès à des podcasts.
Mais ça, c'est aussi l'avantage de notre époque, parce qu'il ne faut pas voir que le côté noir, c'est évident. On a un choix, une offre assez extraordinaire. On a accès à tous les livres du monde. On fait un clic sur Internet, on peut avoir accès à toutes les sagesses de l'histoire de l'humanité. Et puis les réseaux sociaux apportent aussi des bonnes choses. Après, tout le problème, c'est l'addiction. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir accès à plein de choses, mais il ne faut pas tomber dans une dépendance qui fait qu'on n'a plus de liberté. Et les réseaux sociaux paraissent un très bon exemple. Moi, je les utilise. Quand je fais des conférences, je poste sur les réseaux sociaux. Ça fait une heure déjà mes conférences, tant mieux. Sauf que j'y passe même pas 5 minutes par jour sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je vais pas regarder tout ce que les autres publient, etc. Et tout. Je m'en sers comme d'un outil.
Moi, j'ai arrêté. Je dis souvent, je rate la vie de tout le monde, mais plus la mienne.
Voilà, bravo, c'est une très belle
c'est
formule.
Pas mal. Exactement. Oui, ou alors on dit, il faut arrêter de comparer son intérieur avec l'extérieur des autres.
Des autres.
Parce qu'en fait, on est dans une culpabilité culpabilité énorme de dire, mais regarde, cette maman, elle fait la cuisine pour ses quatre enfants, en même temps elle fait ça, et en même temps elle est belle, et en même temps elle est mince. C'est un enfer. De toute façon, la comparaison, je pense que c'est la source de la souffrance.
Tout vient de là, et ça vient de notre cerveau primaire, hein, le striatum.
J'ai invité Sébastien Boller, figure-toi.
Ah, c'est bien ça.
Et on l'a
parce
vu.
Parce que c'est super ce qu'il a sur
bah
le
oui,
dos du vin.
Vu que tu en parles beaucoup.
J'en parle beaucoup.
Où est le sens aussi?
Voilà, tout à fait. Parce que vraiment, ça a éclairé une problématique philosophique pareil vieille bon. Comme le monde. Mmh. C'est-à-dire que depuis 2500 ans, les philosophes nous disent qu'on est effectivement prisonnier du regard des autres, du regard social, qu'on se compare. Sénèque nous dit, si tu veux être malheureux, compare-toi. Bon. Mmh. Mais la clé, elle a été apportée par les neurosciences qui nous montrent que dans notre cerveau primaire, le striatum, il y a un besoin naturel de se comparer. C'est-à-dire que ça fait partie comme le besoin de sexe, de nourriture, d'information,
les besoins
primaires, fondamentaux.
Qui déclenchent de la dopamine.
Et qui déclenchent le circuit de la récompense, c'est-à-dire de la dopamine. Et après, on devient addict à la dopamine. Mmh. Parce qu'on recherche toujours ça pour avoir un shoot de dopamine. Mmh. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que, au fond, la seule addiction qui existe, c'est l'addiction à la dopamine. Sauf qu'après, on va chercher cette addiction à la dopamine dans ou les réseaux sociaux, ou les jeux, ou l'alcool, ou la drogue, etc.
Mais c'est très important.
Mais
ça,
c'est une addiction au plaisir.
La seule addiction qui existe, c'est l'addiction à la dopamine.
Je crois de plus en plus. Et qu'on va et qu'il y a mille moyens d'aller chercher de la dopamine, c'est-à-dire un shoot permanent de plaisir, et que dès qu'on l'a pu, on est mal. Et
c'est
là que ça devient problématique.
Chercher de la drogue.
Et c'est pour ça. Ben oui, parce que ça nous met en permanence, ça nous remet dans du plaisir. Mais par contre, le problème, c'est quand on l'a pu, on est mal et de plus en plus mal.
Oui.
Et donc, on peut plus vivre sans cette addiction à la dopamine. Et donc, comment s'en libérer? Ben, je pense qu'on va en parler, mais c'est la clé.
Bah oui, parce qu'on va parler de l'addiction, mais surtout de la libération.
Absolument.
Parce que c'est ça qui est important. Donc c'est pour ça aussi que je disais, tu es un symptôme de la société. Les gens ont besoin de ça. Malheureusement, c'est beaucoup plus dur de créer une addiction positive qu'une addiction négative. Mmh. Mais comme on l'a dit, ce besoin d'estime, de valorisation, de comprendre les choses, parce que dans les cinq besoins capitaux de Sébastien Boller, il y a aussi la recherche d'informations utiles. Moi, je pense qu'il y a des moments, surtout quand j'ai arrêté justement de boire et de me droguer, puisque c'était le principe en 2017, grâce à ton livre. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais aille d'apprendre quelque chose, mais vraiment je déclenchais énormément de dopamine à l'apprentissage. Donc ça, ça a été pour moi extraordinaire d'apprendre ça parce que
compensé.
Ah ben oui, ça a changé ma vie. Je me suis dit, tiens, je me nourris de choses qui me nourrissent et en plus, je suis totalement défoncé à ce que je suis en train d'apprendre.
Bah ça, c'est la clé spinoziste, c'est-à-dire.
Exactement.
C'est qu'il est, il a, pour la première fois dans l'histoire de la philosophie, on a un philosophe qui nous dit on ne peut pas quitter quelque chose qui nous rend malheureux, donc on va dire une addiction, on ne peut pas quitter par la volonté et la raison. Alors que les épicuriens nous disent la raison nous permet de discerner, de faire les bons choix, etc. Les stoïciens nous disent la volonté nous permet, si tu veux, tu peux.
Descartes.
Voilà, toute l'histoire de la philosophie nous dit la raison et la volonté peuvent nous aider à quitter des habitudes qui sont négatives, des comportements, des modes de vie qui ne nous conviennent pas, qui ne sont pas justes, qui nous rendent malheureux. Et lui dit non, c'est pas vrai. En fait, le désir est l'essence de l'homme. C'est-à-dire, c'est la force, c'est la puissance qui fait qu'on agit. C'est le moteur de nos existences. Et donc, il nous dit qu'il faut s'appuyer sur le désir. Parce que le désir est mal orienté, il nous conduit vers des choses ou des personnes qui nous rendent malheureux, donc des addictions. Eh bien, il faut réorienter notre désir, mais il faut utiliser le désir vers des choses ou des personnes qui nous font grandir, qui nous mettent dans la joie. Et donc, au lieu d'aller vers la tristesse, on va aller vers la joie. Et il nous dit la raison, c'est simplement, va nous aider à discerner quel type de désir, quel type de motivation vont nous aider à quitter une émotion ou un affect négatif. Et donc, la raison va juste nous aider à découvrir un affect positif plus fort que l'affect négatif qu'on cherche à quitter.
Comment, cette raison va
agir ? Eh bien,
agir.
En fait, ça peut venir de nous, ça peut venir des autres.
C'est de l'apprentissage aussi.
Oui, je pense que la clé, c'est effectivement d'avoir un minimum de curiosité et d'ouverture. Ça peut être les autres. Des gens peuvent vous dire, tiens, je prends un exemple très concret. Je connaissais une jeune fille qui était complètement addicte à la drogue. Et ce qui l'a aidé à en sortir, c'est le cheval. Mais quelqu'un l'a amené un jour dans un club hippique et puis elle a eu une attirance pour les chevaux. Le contact est bien passé, il y a eu un lien affectif. Et puis ça l'a tellement plu qu'à un moment donné, cet affect supérieur, donc l'amour pour les animaux et l'amour que les animaux lui donnent, l'a permis de quitter l'amour qu'elle avait pour la drogue. Et à ce moment-là, à un moment donné, la bascule s'est faite. Et c'est-à-dire que pour monter à cheval et tout, il fallait qu'elle arrête son addiction qui la rendait malheureuse. Donc là, on est typiquement dans un truc spinoziste.
Réorientation
du du désir. Orienter son désir vers une activité, une relation, ça peut être une relation amoureuse.
Non, mais les addicts ont du mal à croire à ça, parce que par exemple, j'ai lu même dans tes ouvrages, ou même Didier Van Kovelaert aussi, il explique vraiment qu'en s'occupant d'une plante, d'un animal, on peut totalement réorienter son désir. Moi, j'ai même vu cette série Shameless, dont je suis fan absolue, où il y a un addict incroyable qui s'appelle Lip, qui va au AA, donc au AA, et on lui dit, avant d'être avec une meuf, avant de commencer quoi que ce soit, occupe-toi déjà d'une plante. Si elle meurt pas, tu t'achètes un animal. Si elle meurt pas, tu peux avoir une amie. Et si vraiment elle meurt pas, cette amie, peut-être tu pourras avoir un bébé.
C'est pas ça.
Mais vraiment, il faut commencer par s'occuper
des... Les animaux, souvent, c'est vrai. C'est-à-dire que parce qu'ils ont tellement d'affect que des gens qui sont... Parce que faut voir l'origine. Pourquoi est-ce qu'on est en addiction négative ? C'est qu'on manque d'estime de soi, on manque d'amour, donc il y a vraiment un besoin fondamental, souvent affectif, qui n'est pas nourri. Mais un animal vous donne un amour inconditionnel.
De toute façon, l'amour, en fait, on a consommé par manque d'amour, il va falloir arrêter en rajoutant de l'amour.
Exactement.
Donc, c'est très, très simple.
Et les animaux donnent de l'amour inconditionnel.
Complètement. Mais d'ailleurs, dans les modèles Minnesota, qui sont les modèles, on a reçu pas mal de gens qui ont fait ces cures-là, sur le modèle des 12 étapes des alcooliques anonymes. D'ailleurs, on va en parler parce que c'est grâce à Jung que ce modèle existe. Eh bien, il y a des ateliers avec des chevaux.
Ça ne m'étonne pas du tout. Aujourd'hui, dans des EHPAD avec des personnes âgées qui sont un peu dépressives et tout, on met des chats.
Bien sûr.
Et les gens qui veulent avoir un chat dans leur chambre, ils laissent la porte ouverte. Et les chats, ils se baladent, ils viennent, ils montent sur le lit, etc. Et tout.
J'ai appris aussi que les chats pouvaient aller en fin de vie. Il paraît que quand les chats vont s'installer dans une chambre, souvent,
c'est qu'ils sentent que la personne va partir. Ils accompagnent. Et ils ont un côté... ils sentent très, très bien, de toute façon, tout ce qui se passe dans l'inconscient des gens. Oui. Ils nous accompagnent. Moi, j'ai plusieurs chats et je vois très bien quand je vais pas bien. Ils viennent ronronner sur moi, quoi. Il y a quelque chose de très puissant chez les animaux. Mais pas que ça. Prenons les activités artistiques. Et pas que l'art-thérapie. Simplement, à un moment donné, si on est touché par un art, le fait de vouloir grandir dans la créativité artistique, il faut arrêter certaines addictions. On peut pas à la fois être alcoolique et développer... c'est difficile de développer vraiment une technique artistique quand on tremble, quand on n'est pas dans un état qui permet de le faire. Et donc, il y a des gens, c'est grâce à l'art qu'ils sont sortis de certaines addictions, parce que ça leur permettait de développer cette activité. Donc, on voit plein de domaines dans lesquels la puissance du désir peut s'investir pour réorienter nos désirs de quelque chose qui nous rend malheureux, même si ça apporte du plaisir, c'est toujours le problème. C'est la différence entre le plaisir et le bonheur. C'est que le plaisir, c'est une émotion immédiate, puis après ça dure pas, il faut renouveler. Le bonheur, c'est un état global et durable de satisfaction.
C'est la béatitude ?
Non, mais c'est... Non. Bon, Spinoza l'appelle comme ça. Mais le bonheur, c'est un état global et durable. C'est-à-dire que le bonheur, c'est quelque chose... On ne dit pas « je suis heureux parce que je viens de me fumer une clope » ou « parce que je viens de croiser une personne que j'aime bien ». On dit « je suis heureux parce que j'aime la vie que je mène ».
On ne peut pas être heureux sporadiquement ?
Non. On a du plaisir sporadiquement. Bah, philosophiquement, non.
Oui, oui.
Puisque la définition même du bonheur, c'est justement durable. La durée. C'est la globalité. C'est-à-dire qu'on se dit globalement, malgré des soucis, des problèmes et tout, globalement, je suis heureux. Et durablement, je suis heureux. C'est-à-dire que si on vous pose la question, est-ce que vous êtes heureux, vous n'allez pas dire, je suis heureux simplement parce que vous venez de prendre un café. Vous allez dire, ah, j'ai du plaisir parce que j'ai pris un café. Vous allez dire, je suis heureux parce que j'aime la vie que je mène. Et donc, il faut que dans les différents domaines de votre vie, à la fois affective, professionnelle, la relation que vous avez avec vous-même, avec le monde, avec la vie, ben vous soyez satisfaite.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du plaisir dans chaque domaine de notre vie,
alors,
finalement ?
Alors, il peut y avoir du plaisir, mais pas forcément.
On peut être heureux dans la cesse totale aussi.
Alors, pas complètement. Je ne pense pas qu'on peut être heureux dans la cesse totale. Je pense qu'il faut un minimum de plaisir. Ce que disait Épicure, d'ailleurs, une vie sans plaisir, le bonheur est difficile. Mais il peut y avoir des plaisirs qualitatifs plutôt que des plaisirs quantitatifs. C'est-à-dire, ce n'est pas l'accumulation d'une foule de plaisirs quotidiens qui vous rendra le plus heureux. C'est d'avoir pas tant de plaisir que ça, mais de grande qualité. Il donne cet exemple très simple. Il dit, on est plus heureux lorsque on a quelques amis qu'on aime profondément et qu'on voit régulièrement qu'une foule d'amis superficiels qu'on voit jamais. Regardez les réseaux sociaux, est-ce que ça nous rend heureux, tous ces amis, ces milliers d'amis qu'on a sur Facebook. Mais d'avoir 2-3 vrais amis nous rend plus heureux, c'est la qualité. Il dit, on est plus heureux lorsqu'on mange régulièrement des mets de qualité en petite quantité que lorsqu'on bafre des choses qui sont pas très bonnes, c'est pas bon pour le corps. Et la santé, c'est le bonheur du corps.
Privilégier déjà la qualité, à la quantité.
Ça, c'est une clé. Le bonheur est lié à la qualité. Okay. Et pas la quantité. Donc, c'est pas la masse de plaisir qui va apporter le bonheur, c'est le choix des plaisirs.
On revient toujours, qualitatifs. Voilà, on revient toujours au fait de nourrir durablement sa vie intérieure, son monde intérieur, par l'art, comme tu l'as dit. Bergson qui dit « Être libre, c'est accomplir une œuvre qui nous ressemble ». Moi, je trouve que ça, c'est une réalité.
Je ne connaissais pas cette formule.
Elle est magnifique. C'est-à-dire, je me rends bien compte que quand je fais quelque chose comme là, ça se voit d'ailleurs, c'est pour ça que je coupe énormément la parole souvent, on me le dit, parce que je suis dans un tel enthousiasme, en théos, n'est-ce pas?
En théos, ouais, c'est Dieu, l'enthousiasme, c'est en Dieu. Mais c'est vrai. C'est vrai, et puis quelque chose qui nous ressemble. Puis alors, en même temps, l'altérité nous fait grandir aussi, la différence. Parce que c'est vrai que ce que tu dis, c'est juste. Et en même temps, ce qui nous ressemble, c'est plutôt, je dirais, quelque chose qui fait écho à un besoin fondamental qu'on a. Parce que moi, je sais par exemple que ce qui me nourrit le plus, c'est la nature, tu vois. Et je sais pas si la nature me ressemble, mais ce que je sais, c'est que y a une harmonie dans la beauté du monde qui me bouleverse, qui me fait un bien fou. Et que rien ne me nourrit plus et donc m'empêche de tomber dans toutes sortes d'addictions possibles, hein, parce que je suis totalement nourri quand je vis dans la nature. C'est pour ça que je vis depuis 30 ans dans la nature. J'ai la chance d'avoir une petite maison au bord de la mer où dès que je me lève, je regarde ça et je me dis mais quel que le monde est beau, il me nourrit. Et du coup, j'ai pas besoin d'aller chercher d'autres plaisirs immédiats parce que j'ai une grande joie tous les matins devant moi par la beauté du monde que
et
je contemple.
Et ceux qui n'ont pas cette chance justement d'avoir la beauté du monde devant leur fenêtre, qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là?
On peut la faire
aussi
venir chez soi, par la musique par exemple. Écouter une musique qui nous élève l'âme, qui nous fait du bien, qui nous nourrit. Aujourd'hui, on peut avoir accès à la lecture, la poésie. Moi, je lis de la poésie. Il y a des petits moments, ça m'arrive de moins en moins souvent, des petits moments où j'ai des petits coups de déprime, parce que j'ai des galères, des trucs difficiles, etc. Et tout. Ben, je sais que la poésie me fait un bien fou. Et je vais plonger dans les contemplations de Victor Hugo, dans Bobin, dans Rilke. Et là, d'un coup, mon âme respire. Ça m'élève. Et donc, je crois qu'il y a plein de choses qui coûtent rien, hein, franchement.
Le travail aussi, quelque chose de manuel aussi. Moi, je me rends compte que les gens qui travaillent manuellement sont plus heureux.
Ça fait beaucoup de bien. Alors, moi, c'est la terre. C'est-à-dire que moi, c'est le potager, c'est les arbres, c'est, je taille les, bon, j'ai la chance, voilà, d'avoir du,
oui, mais c'est pas une chance.
De la nature. J'ai choisi d'aller vivre dans la nature. Mais du coup, je peux être en contact avec les arbres, avec la terre. Et pour moi, le manuel, je ne suis pas un bricoleur. Je ne saurais pas construire une table. Mais par contre, je sais bien tailler un arbre, je sais bien planter. Wow. Et ça me fait beaucoup de bien.
Génial.
Ça me ressource, ça me met vraiment en lien avec la nature, dans la force vitale. On parlait du vital, c'est Bergson qui nous parle de l'élan vital. Mm. Et l'élan vital, il commence, c'est la vie. Elle est pleine d'élan vital. Et donc, il faut se relier à cet élan vital. Et les meilleures manières de s'y relier, c'est le contact avec la nature, qui est bourré d'élan vital. Et c'est l'art, c'est la création artistique. La création artistique.
Oui, c'est pas que l'art, on est dans la création.
La créativité, on pourrait dire.
Créativité, même pas artistique, forcément.
C'est la créativité.
Oui.
Un chef d'entreprise peut être ultra créatif.
Complètement.
Il fait du business, mais il est hyper créatif dans son business. J'en connais quelques-uns, ils ont mis une créativité dingue pour trouver un nouveau produit, comment le faire connaître, etc. Et donc, la créativité, elle peut être présente dans plein de choses.
D'ailleurs, dans ton livre, tu en parles beaucoup, un ami fiscaliste, je crois, qui peut être créatif dans son métier.
Ah oui, c'est incroyable les trucs qu'ils trouvent.
Mais aussi les professeurs. Moi, je vois les professeurs qui ont une créativité,
ouais,
ceux qui n'en ont pas. Et ben, on voit
la
différence déjà dans l'apprentissage des enfants, mais surtout même dans la joie d'exercer son métier. Mmh. Et je trouve qu'on revient, moi, un des plus grands philosophes, c'est Jean-Jacques Goldman.
Moi, j'adore Jean-Jacques Goldman.
Il changeait la vie. Pour moi, il explique tout. C'est-à-dire quelqu'un qui est cordonnier ou quoi que ce soit, professeur, si dans sa façon d'exercer, il rend le monde meilleur. En fait, lui-même se nourrit, il nourrit. Donc, on est dans ce cercle vicieux de l'altruisme, qui est un altruisme égoïste, en fait, qui nous nourrit. Moi, j'aimerais juste revenir sur les notions, la différence, par exemple, entre désir, envie et appétit. Le désir, c'est l'appétit avec conscience de lui-même, c'est ça? C'est Spinoza?
Oui, tout à fait. Ouais.
Donc, le désir...
L'appétit, c'est quelque chose de naturel.
Ouais.
Les animaux, l'appétit, c'est ce qui te porte vers quelque chose.
Mm-hmm.
C'est un élan naturel de la nature, hein, de notre nature, qui fait qu'on est porté, on a un besoin, on, on a faim, on a l'appétit de manger. Et le désir, c'est mettre de la conscience là-dessus. Donc, du coup, le désir a quelque chose de plus élaboré. On le voit très bien dans la sexualité. Regarde la sexualité d'un animal, c'est quand même de l'appétit. C'est-à-dire, c'est vraiment, moi, j'adore mes chats, mais quand je les vois copuler, c'est vraiment, c'est quelque chose
instinctif,
de très
fait.
Instinctif,
d'accord.
De très rapide, animal. Instinctif, animal. Et on voit que dans la sexualité humaine, dans le désir, il y a quelque chose de beaucoup plus élaboré. C'est-à-dire qu'il y a du fantasme, il y a de l'imagination, il y a de la créativité.
Il y a toujours de la créativité dans ce désir.
Il y a quelque chose dans. Alors, il peut y avoir de l'appétit animal, hein, bien sûr, mais il peut s'enrichir d'un tas de choses. Et donc, on voit très bien que la sexualité humaine, elle est complexe. C'est pas simplement, tiens, j'ai une pulsion, je vais me reproduire ou aller vers un partenaire. Là, c'est de l'appétit. Ça peut être que ça, mais ça peut être beaucoup plus.
En fait, il faut spiritualiser le désir, le plaisir, un petit peu, pour que ça devienne du désir.
C'est pas que spiritualiser, c'est aussi mettre de l'imaginaire. Dans l'imaginaire, oui, tout à fait, mettre de l'invisible, tu as raison.
Okay.
Ça peut être mettre de l'imaginaire, le fantasme sexuel, c'est typique.
Bien sûr.
C'est que tu vas fantasmer sur une personne, y mettre des choses qui n'existent pas vraiment, mais c'est tout ce jeu de projection, de fantasme, etc., qui va faire que le désir va monter. Et puis on peut y mettre de l'amour, tout simplement. C'est-à-dire que chez les animaux, quand ils se reproduisent, il n'y a pas beaucoup d'amour. Et là, le fait d'avoir des sentiments, le fait d'avoir un attachement profond à la personne, ça enrichit, ça ennoblit la sexualité. Et donc là, on est dans du désir qui est de plus en plus conscient. C'est pour ça que Spinoza a tout à fait raison de dire que le désir est lié à la conscience. Et plus il y a de la conscience, plus le désir nous nourrit profondément. C'est-à-dire que l'assouvissement du désir, c'est quelque chose de très nourrissant. Parce que ça touche à la fois notre corps, notre âme, notre sensibilité, nos émotions, nos affects dans tous les domaines. Donc un désir pleinement conscient nous satisfait beaucoup plus qu'une pulsion immédiate. Un jour, je fais des ateliers philo avec les enfants.
Bien sûr.
Et un jour, il y a un enfant qui dit, moi, quand je vais au supermarché avec maman, et puis je lui dis, je veux ça, qu'elle me l'offre, je suis déçu, parce que je ne l'ai pas assez désiré.
Mmh.
Et je trouve que c'est d'une profondeur de dire ça. Et il dit, finalement, je préfère quand elle ne me l'offre pas, et puis au bout de 6 mois, 1 an, quand elle me l'offre, j'ai beaucoup plus de plaisir, parce que je l'ai longtemps désiré, imaginé, attendu. Et on voit ça dans la vie amoureuse. Et aujourd'hui, dans mon livre sur le désir, là, il y a tout un chapitre sur la sexualité des jeunes. J'étais très intrigué par des enquêtes qui montrent que chez les 15-25 ans, la moitié n'ont eu aucun rapport sexuel avec un partenaire au cours de l'année écoulée. Pourquoi ? Quand tu les interroges, ils te disent, c'est parce que j'en ai marre d'une sexualité type porno, où on a un désir, on rencontre une personne, on fait tout de suite l'amour, mais ça devient extrêmement lassant. Alors que quand, et des jeunes le disent, je les cite, ils disent, mais quand finalement on apprend plus à désirer la personne, à pas coucher le premier soir, à attendre, à la désirer, c'est beaucoup plus fort. Puis on la connaît mieux, et puis il se passe d'autres choses, il y a plus d'émotions, il y a plus de sentiments. Ils redécouvrent des valeurs traditionnelles finalement, des fiançailles, du fait qu'on attendait. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose dans l'être humain qui n'est pas justement que animal, et qui a besoin de ce temps de connaissances, de sentiments, de connexions, de complicité, pour que son désir prenne de l'ampleur et pour que la satisfaction soit beaucoup plus profonde.
Ouais, moi, j'ai abouti à ça au bout de 226 pages sur ce livre qui paraîtra en janvier. Que pour s'en sortir d'une addiction et pour justement réorienter le désir, pour réorienter l'appétit, pour trouver ce truc-là, il fallait mettre de la conscience.
Oui, tout à fait.
Il y a ce truc-là. Et puis, il y a aussi, en effet, d'arrêter d'assouvir immédiatement les besoins.
Bien sûr.
Parce que j'ai
mais en même temps, on tombe tous dans le piège.
Oui, bien sûr.
Combien de fois il m'est arrivé d'avoir un désir sexuel.
C'est biologique, surtout.
C'est biologique. De le vivre. Et puis après, de me dire, mais c'est con, parce qu'il aurait mieux fallu attendre plus.
Oui. Il y a d'ailleurs cette phrase, je me demande, c'est pas moi qui l'ai écrite parce que je ne retrouve plus du tout l'auteur. J'ai cette phrase que j'avais notée quelque part dans mes notes qui dit « L'obtention n'est pas un gain, mais elle n'est que la perte du manque. »
Ah, c'est...
Donc finalement, on ne gagne pas. Quand on obtient, c'est un peu l'histoire de ton enfant au supermarché.
Oui,
fois que tu l'as,
voilà. Mais tu connais cette phrase de... j'ai oublié le nom. Un humoriste
on fait des citations sans nom maintenant.
Irlandais. Qui nous dit qu'il y a deux tragédies dans la vie. La première, c'est de ne pas avoir ce qu'on désire ardemment, et la deuxième, c'est de l'avoir. Parce qu'une fois qu'on l'a, on est déçu. Et on se dit, c'est que ça, et on veut autre chose.
C'est que ça.
Et donc, on fonctionne en permanence dans la spirale du désir et de la frustration.
Et c'est l'addiction.
Du désir et de la tristesse, du manque. Et là, on tombe dans l'addiction, effectivement.
En fait, ça commence par le manque, la satiété. Le manque, la
satiété,
et c'est un cercle. Et c'est ça le cercle vicieux de l'addiction.
C'est la phrase de Schopenhauer. qui nous dit cette phrase désespérante. Et André Comte-Sponville dit c'est la phrase la plus désespérante de l'histoire de la philosophie. C'est toute la vie aussi entre la souffrance et l'ennui. Souffrance de ne pas avoir quelque chose, et quand je l'ai, ennui. Et donc, à nouveau, je suis frustré et je vais vouloir quelque chose. Donc, on est tout le temps entre la souffrance et l'ennui. Alors, ça, évidemment, c'est uniquement si on associe le désir au manque. Mais il y a une autre conception du désir qui n'est pas celle du désir-manque, qui est la conception spinoziste. C'est le désir comme puissance vitale.
Complètement. Alors, si j'ai bien compris, je voulais qu'on en parle, mais je pense que l'étymologie, ça vient donc du grec ou du... Enfin, je sais qu'en hébreu...
Du latin,
alors, ça, c'est incroyable, parce qu'il y a deux étymologies opposées. Il y en a une qui signifie arrêter de contempler le cosmos, les étoiles, et l'autre qui est sortir de la sidération, donc se mettre en mouvement.
Tout à fait.
Incroyable.
Ah oui, c'est passionnant, parce que ces deux étymologies correspondent aux deux grandes conceptions qu'on a du désir dans l'histoire de la philosophie.
C'est très important pour l'addiction, surtout.
Perdre les étoiles, c'est-à-dire perdre la connexion au fond avec le divin, etc., qui fait que on est dans le manque permanent et on va désirer sans arrêt parce qu'on a perdu la boussole.
Mais les deux sont vrais, c'est ça qui est génial.
Et l'autre, c'est qu'on sort de la sidération.
Et on se met en mouvement pour sortir
enfin, sortir d'addiction.
J'ai l'impression que tout est dit, on pourrait arrêter là, mais c'est hors de question. Ouais.
Et donc la première conception, c'est Platon, c'est le manque, et la deuxième, c'est Spinoza.
Voilà, si j'ai bien compris, on a le désir-manque, qui, lui, c'est Platon, Socrate, et on parle d'insatiabilité, donc ça mène à la souffrance, évidemment. Moi, je pense que l'addiction vient se loger ici, dans le désir manque, évidemment. Et on a le désir puissance, qui est au cœur de l'éthique de Spinoza, et qui n'est pas du tout motivé par le manque, ni par le cerveau primaire, donc le striatum, on n'est pas là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'il y a une conception un peu plus relativiste, qui est Aristote, et qui pense qu'il y a une faculté désirante.
C'est du pré-Spinoza.
C'est ça.
Aristote, déjà, il contredit Platon.
D'accord.
En disant, il n'y a pas que du manque dans le désir. Il y a une puissance désirante dans l'être humain.
Voilà.
C'est-à-dire, c'est une force qu'a l'être humain. Mais il ne va pas plus loin. Mmh. Et c'est Spinoza qui, il ne le cite pas, mais qui, probablement en repartant d'Aristote, va beaucoup plus loin en disant le désir, c'est l'essence de l'être humain, c'est cette puissance vitale qui fait qu'il a envie de progresser, de grandir, de s'accomplir. Et donc, ce n'est pas lié qu'au manque. On a du désir manque, on a du désir puissance. Et le tout, c'est de passer de plus en plus du désir manque au désir puissance.
Ça, c'est bien. Il faut qu'on le sache pour l'addict. C'est très important. C'est ça qu'on doit faire, en fait, pour sortir de l'addiction. Philosophiquement, il faut passer du désir manque
au désir puissance.
Passer
et donc cultiver la puissance vitale, comme on disait, à travers à la fois la beauté, l'art, l'amour.
Justement, on a trois réactions philosophiques par rapport à ce désir manque, entre guillemets, je pense. On a ceux qui décident de contrôler ce désir par la raison, et là, ça serait Aristote et Épicure. On aurait ceux qui aimeraient le supprimer. Donc là, on a le stoïcisme qui voudrait le supprimer par la volonté, on y croit moyennement, et le bouddhisme, par quoi d'abord ?
Le détachement.
Par le détachement. Et la troisième solution serait de réorienter le désir, et là on est tous partants, c'est Spinoza, c'est Nietzsche, c'est Jung, c'est Bergson. Comment le réorienter ? Par la joie, en fait, non ? Par quoi ? Comment on le réoriente ce désir ? On va revenir là-dessus. Parce que Bergson, il dit un truc très bien, il dit « la vie nous prévient par un signe que nous avons atteint notre but, c'est la joie ».
Oui, oui. La joie, c'est le suprême désirable.
Voilà.
Parce que, au fond, ce qu'observe Spinoza, c'est que, à travers tout ce qu'on désire, à travers tout ce qu'on recherche, c'est la joie qu'on recherche. Lorsqu'on est dans le sentiment amoureux, dans le désir amoureux, on recherche la joie, de la satisfaction, de la rencontre.
Mais même dans la drogue, on pense qu'on va avoir de la joie.
On recherche la béatitude, le bonheur absolu, donc la joie. Mmh. Parce que la joie, c'est le bonheur incarné, le bonheur dans le corps qui est plein de, qui nous met, dans une émotion très intense. Et donc, au fond, Spinoza observe que ce que nous recherchons tous, quel que soit le type d'expérience, c'est la joie. Et donc, il s'agit d'orienter nos désirs vers ce qui nous met dans la joie. Et là, on est devant toute la philosophie de Spinoza, voilà. Et j'en dis un mot en quelques
minutes.
Bien sûr,
qu'est-ce que la joie ? C'est ce
qu'est-ce que la joie
spinozienne ?
Ben, en fait, il observe que tout organisme vivant fait un effort pour persévérer dans son être et pour grandir, pour progresser, pour s'accomplir. Et il nous dit, au fond, la joie vient du passage d'une moindre perfection à une plus grande perfection. Chaque fois qu'on grandit, chaque fois qu'on s'améliore, chaque fois qu'il y a plus de puissance vitale, on est dans la joie. Et à l'inversement, chaque fois qu'on peut pas progresser, chaque fois qu'on est bloqué, on est dans la tristesse. Et ça, c'est tellement vrai. C'est-à-dire que si on l'observe à tous les niveaux de nos vies, c'est vrai. Un enfant, on le voit, dès qu'il apprend quelque chose, dès qu'il progresse, il est dans la joie. Et puis, dès qu'il peut pas progresser, dès qu'il est bloqué, il est dans la tristesse. Et on est tous pareils.
Passage d'une
moindre à une plus grande perfection.
Et l'inverse pour la tristesse, c'est
on
le
diminue.
Passage d'une...
On diminue, c'est-à-dire qu'on ne peut plus s'accomplir, on ne peut plus progresser. Et donc, soit on est bloqué, soit on diminue. Du coup, ce qu'il s'agit de faire, c'est effectivement de découvrir ce qui, selon notre nature propre, va nous permettre d'aller vers la joie. Et alors là, c'est l'orientation de nos désirs. Et l'orientation de nos désirs, pour Spinoza, ça vient de la raison. C'est-à-dire, c'est l'expérience, c'est l'observation, c'est l'analyse, c'est ce qui va nous permettre de discerner qu'est-ce qui, moi, en tant qu'individu singulier, va me correspondre. Et donc, il s'agit d'orienter mes désirs vers des choses, des idées ou des personnes qui me correspondent, c'est-à-dire qui s'associent bien avec moi, avec ma nature singulière. Donc, derrière ça, il y a l'idée que nous avons tous une nature singulière, on est tous différents, et que ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre. Le chocolat peut être très bon pour toi et très mauvais pour moi, ou vice-versa. Plutôt, en tout cas, moi, c'est très bon. Il y a des gens, ils font une indigestion tout de suite. Il y a des aliments qui nous conviennent, des aliments qui nous conviennent pas, c'est pas la même, c'est pas les mêmes pour les, pour les uns et pour les autres. Il y a des types de personnalités qui sont toxiques pour les uns, qui sont pas du tout toxiques pour les autres.
C'est vrai, c'est
il y a
vrai.
Des types de croyances, de pratiques spirituelles qui sont très bons pour les uns, très mauvais pour les autres.
Par exemple, en amour, justement, je trouve ça génial, par rapport à ce que tu dis. Parfois, on est avec quelqu'un qui n'a pas forcément que des qualités, mais ces défauts-là ou ces qualités-là vous font grandir.
Oui, complètement.
Et moi, je me rends compte de ça, que il y a des gens avec qui j'ai grandi. Parce qu'il avait tel ou tel défaut d'ailleurs.
Qui nous permettent d'être
donc
conscients
pas,
de certaines
voilà,
choses.
C'est pas parce qu'une chose est bonne.
Non.
C'est le fameux aussi.
Faut voir si ça nous permet de grandir.
Exactement.
C'est vraiment la clé de tout.
Donc la raison pour discerner. Mais le seul moteur du changement reste le désir.
Le désir.
D'accord.
Donc réorienter ses désirs vers des choses ou des personnes qui nous font grandir et qui nous mettent dans la joie.
On va quand même parler un petit peu de la volonté. Parce que dans cette société. Oui,
pardon. Tu parlais de l'amour. Est-ce que tu connais la définition Spinoza de l'amour? Parce que
ouais,
tu connais beaucoup de choses,
ouais,
je m'aperçois que tu as énormément de connaissances, donc je suis sûr que tu connais la définition.
Oui. Évidemment, l'amour, c'est une idée adéquate de... C'est ça?
T'es presque dessus. C'est une joie.
Une joie avec accompagnée d'une idée adéquate de la personne.
Exactement. C'est une joie liée à l'idée d'une cause extérieure, c'est
voilà.
ça? C'est une joie liée à l'idée d'une cause extérieure. Et cette idée peut être adéquate ou inadéquate.
Voilà.
La cause extérieure, c'est une personne.
C'est la personne ou l'objet.
Et l'idée peut être adéquate ou inadéquate. Donc, par exemple, je peux avoir une idée adéquate de l'autre. Donc, la joie sera une joie vraie, active, parce que je connais vraiment l'autre.
On ne va pas être déçu, surtout.
On ne sera pas déçu, parce qu'on le connaît tel qu'il est. La passion, c'est une idée inadéquate, parce que nous avons des projections sur l'autre. Nous imaginons l'autre.
Tu dis que l'amour dure 3 ans, c'est beaucoup trop long.
Je pense que 6 mois aujourd'hui, en quelques mois, on a découvert que finalement, on a fait le tour et on se rend compte que l'autre n'est pas l'idée qu'on avait, etc.
C'est très biologique aussi, parce que toutes les hormones qu'on a déclenchées au moment de la rencontre aussi, c'est
très biologique. Tout à fait. Il y a plein de choses biologiques, il y a plein d'imagination.
On a une lune de miel, même avec le produit, on dit ça, avec les substances toxiques, on a une lune de miel avec un produit, ça veut dire que ça disparaît au bout d'un moment.
J'ai un ami psychiatre qui dit la première fois qu'on fait l'amour à quelqu'un, il y a 8 personnes dans le même lit. Parce qu'il y a à la fois les deux amoureux, il y a les anciens conjoints et les parents respectifs.
Bien sûr.
Tout ça se brasse dans notre imagination, dans nos projets, dans notre sensibilité. Et donc, il faut avoir effectivement une idée de plus en plus adéquate de la cause extérieure que l'on désire. Et ça vient avec l'expérience. Alors, soit on est très intuitif, c'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un, on a vraiment l'intuition de ce qu'est la personne, au-delà de ce qu'elle peut dire. Parce que quand la personne, elle se montre toujours sur son bon visage dans la relation amoureuse, c'est rare qu'on dise, tu sais, je suis un loser, je ronfle la nuit.
Tu sais, j'ai tué 4 ou 5 femmes avant toi.
Ouais, mais là, on dit toujours, je suis un winner, je suis quelqu'un de très créatif, très artiste, je fais de la méditation. On monte toujours le bon côté. Donc déjà, l'intuition peut nous dire, bon là, il en rajoute un peu, mais c'est pas grave, parce que je vois très bien le type de personnage. Et ça me convient, ça me convient pas. Puis souvent, on se fait embobiner. On a envie de croire que l'autre correspond à l'image qu'on a du prince ou de la princesse charmante. Et après, c'est l'expérience, c'est la confrontation avec le réel, l'observation, qui va nous remettre les pieds sur terre. Et là, soit on aime la personne telle qu'elle est, avec ses défauts, ses qualités, ses hauts, ses bas. Et à ce moment-là, on est dans une connaissance adéquate de l'autre. Et on peut tout à fait durer. Et la joie, elle est elle est profonde de la relation.
Et l'acceptation rentre en jeu.
Soit on se dit, mais l'autre ne correspond pas du tout à l'image qu'on avait. Et à ce moment-là, c'est la fin de la relation. Et ça peut basculer. L'amour peut basculer dans la haine.
C'est ce qu'il raconte, c'est l'idée.
Spinoza nous dit que la haine, c'est une tristesse liée à l'idée d'une cause extérieure.
Exactement.
Et c'est l'inverse de l'amour.
Exactement. J'aime beaucoup, de toute façon, tous les axiomes dans l'éthique, qui est très difficile à lire, parce qu'on a les définitions exactes.
Ah, mais quand tu
de chaque chose de la vie, mais tout, de la haine, de la jalousie, de l'amour, de la passion.
Tout à fait.
Tout est décrit à la perfection.
Une phrase, quand tu dis qu'il y a des gens qui ont fait des traités de 1000 pages sur l'amour et que lui, il fait une ligne.
Une ligne
suffit. Une joie liée à l'idée d'une cause extérieure. Oui. Tu te dis, mais comment? Oui. Et quand tu analyses, tu te dis, mais c'est tellement profond.
C'est tellement vrai. Le sujet de la dépendance affective et la dépendance affective aux personnes toxiques aussi. Et puis, si on veut revenir à notre sujet qui est l'addiction aux produits toxiques, par exemple, ou à un comportement addictif, c'est pareil, c'est on se fait une idée inadéquate de la chose qu'on désire. Hein. On pense que ce verre-là, il va nous faire du bien.
Oui, bien sûr.
Évidemment. On ne peut pas ne pas parler du concept de la notion de volonté avec la philosophie et avec l'addiction. Pour moi, c'est extrêmement important. Et on a surtout beaucoup de différences entre les philosophes. On a quand même ceux pour qui la volonté est le seul moyen de réussir à s'en sortir, comme Kant, Rousseau ou le stoïcisme, je crois aussi. Et puis, on a ceux qui mettent en avant que contrôler ses désirs par la voie de la raison et non de la volonté. Donc ça, c'est pas la volonté. On a Aristote, Épicure, on est plus dans la raison. Et enfin, on a, comme encore une fois, Baruch Spinoza qui, lui, ne parle pas de volonté.
Alors, je voudrais dire un mot du bouddhisme, parce que c'est très particulier.
Oui.
Et c'est très intéressant. Le Bouddha, lui, bon, tu connais le discours sur les nobles vérités, hein, c'est que tout est souffrance et que la souffrance est liée au désir-attachement. Et pour atteindre la béatitude, le bonheur profond et durable, il faut quitter le désir-attachement. Et on l'a souvent compris, notamment en Occident, comme tuer le désir. C'est-à-dire ne plus du tout désirer. C'est pas ça qu'il dit. C'est qu'il dit qu'il faut quitter l'attachement lié au désir. Mmh. Autrement dit, tu peux désirer une personne, par exemple, elle te désire pas. Ah, t'es déçu.
Il faut quitter cette déception.
Quitte cette déception. C'est-à-dire, accepte que l'autre ne te désire pas. Tu désires une belle voiture, t'as pas les moyens de te l'offrir, accepte que t'as pas les moyens de te l'offrir. C'est-à-dire, détache-toi du résultat. Et c'est très intéressant, parce que ça, c'est une vraie philosophie que je trouve intéressante.
On ne tue pas le désir.
Eh ben, on ne tue pas le désir, tu continues de désirer plein de choses, de rêver. Et puis, si tu peux pas, si c'est inaccessible, à ce moment-là, tu acceptes. C'est l'acceptation que le réel ne correspond pas à ton désir. Et donc, tu es dans le détachement. Mais le détachement, c'est pas tuer le désir.
Bien sûr.
Tu vois, c'est simplement enlever l'attachement qui est lié au désir.
Parce qu'on est d'accord qu'on n'a pas envie de tuer le désir, parce que c'est tuer la vie.
Voilà. C'est tuer la vie. Oui. Et donc, le bouddhisme ne nous dit pas qu'il faut plus désirer. Il nous dit simplement, vis dans le détachement tous tes désirs. Et si tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu l'acceptes. C'est pas grave. Et moi, j'essaye un peu de vivre comme ça. C'est-à-dire, j'essaye de continuer d'avoir plein de désirs.
Bien
mais
sûr.
Si je ne peux pas obtenir ce que je désire, eh ben, je l'accepte. Je me dis, c'est pas grave.
Tu vois la prière de la sérénité qu'on récite dans les groupes de dépendants anonymes. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence.
C'est très profond.
Normalement, on pense que ça vient de Marc Aurèle, mais c'est pas sûr. En revanche,
c'est stoïcien. C'est totalement stoïcien. Voilà. Si c'est pas Marc Aurèle, c'est Épictète.
Ouais.
De toute façon, Épictète nous dit, distingue ce qui dépend de toi, ce qui dépend pas de
Complètement.
Toi. Ce qui dépend de toi, fais tout pour le changer, l'améliorer, tout. Ce qui dépend pas de toi, accepte-le joyeusement.
Parce
que ça sert à rien d'être en colère contre la vie, contre la réalité.
D'avoir la sagesse, savoir ça je peux le changer, ça je ne peux pas. Déjà, tout ce qui concerne les autres, il faut arrêter de vouloir changer.
On ne peut pas les changer.
Ça fait partie du truc.
Donc, moi, je dis ce qu'on pense, mais on ne peut pas les changer.
Deuxième spoiler de mon livre, conscience sur le désir et acceptation de ce qui est. Et donc, ce qui est, c'est souvent ce qu'on est, notre part d'ombre. Parfois, il faut l'accepter plutôt que de combattre. Moi, je suis plus pour mettre de la lumière plutôt que de...
Tu connais cette phrase de Jung qui est formidable. On ne devient pas lumineux en regardant la lumière, mais en traversant son ombre.
Et
c'est magnifique.
Alors ça, je ne la connaissais pas.
Bah, elle est magnifique, elle dit tout.
Magnifique.
Ça va aller voir ce qu'il y a, la part d'ombre qu'il y a en nous, et la conscientiser. Sur le détachement, j'ai quelque chose que j'ai compris qui éclaire beaucoup, parce que les gens se disent, oui, mais c'est facile de se détacher, mais quand on aime quelqu'un, par exemple, un parent qui aime ses enfants, et là, on confond deux choses. On confond l'attachement du cœur, c'est un attachement affectif, et l'attachement de l'esprit. C'est pas du tout la même chose. Quand le Bouddha nous dit il faut être dans le détachement, c'est le détachement de l'esprit.
Bien sûr.
C'est-à-dire ne pas posséder l'autre, ne pas s'attacher au résultat.
Mais on peut aimer.
On peut profondément aimer quelqu'un, tout en acceptant que cette personne nous quitte. Et donc, on souffrira dans notre cœur que cette personne nous quitte, mais on acceptera qu'elle nous quitte parce qu'on sait que cette personne ne nous appartient pas.
Et même la mort, si on...
Mort, c'est exactement pareil. Exactement.
De toute façon, une personne décède, être...
Oui, mais on souffrira toujours. On souffrira toujours de la perte d'un proche, mais on peut accepter la mort. C'est-à-dire, on peut accepter que la vie implique la mort.
Et on peut souffrir...
Et donc, on est dans un détachement. On peut à la fois être dans la souffrance de la perte affective d'un être cher, et en même temps dans une acceptation profonde de la vie et de la mort, qui fait qu'il y a de la sérénité au sein de la tristesse.
Et même de la joie. Enfin, disons qu'on peut être malheureux dans un état de joie qui ne nous quitte pas, mais la tristesse est un moment.
Alors, je vais te donner l'exemple de Chuang Tzu.
Ah oui.
Chuang Tzu, c'est un grand philosophe taoïste, et il croit que l'âme continue d'exister. Donc, à un moment donné, on nous raconte dans le Chuang Tzu, qui est un livre qui raconte sa vie et ses pensées, qu'il a perdu sa femme. On dit, ça fait 40 ans qu'il vit avec sa femme, il était très attaché à sa femme. Et pourtant, quand elle meurt, il se met à danser et à chanter de joie. Et alors, les villageois vont le voir en disant, mais quoi, tu n'aimais pas ta femme? T'as l'air d'être heureux qu'elle s'en aille. Et il dit, mais pas du tout. Je suis profondément triste qu'elle soit plus là parce que j'adorais sa présence, j'aimais sa présence. Mais je suis profondément heureux qu'elle continue son chemin parce que ma femme n'est pas ma femme. Ma femme, c'est un être, ce n'est pas ma femme. Mmh. C'est un être que j'ai rencontré, que j'ai eu la chance que le destin mette sur ma route. Et aujourd'hui, je célèbre la poursuite de son long chemin dans l'aventure de la vie qui ne s'arrête pas avec sa mort. Le détachement, le détachement de l'esprit, hein, ne pas posséder les choses, ne pas vouloir absolument que les choses se réalisent comme on voudrait qu'elles se réalisent, si ça ne nous appartient pas, si la vie nous contrarie, hein, et c'est accepter la vie telle qu'elle est. On accepte ce qu'on ne peut pas changer.
D'accord. Et est-ce que, pourquoi par exemple dans l'axiome de Spinoza qui dit que la raison et la volonté ne suffisent pas pour changer, pourquoi il met ensemble raison et volonté? Ça va ensemble, ça va de pair?
Non, parce qu'il se situe par rapport aux écoles de l'Antiquité, où il dit pour les stoïciens, c'est la volonté qui nous permet de changer, pour les épicuriens, c'est la raison. Et donc, certains courants nous disent que c'est la raison, d'autres que c'est la volonté. Lui dit ni l'un ni l'autre, aucun des deux.
Et toi, tu penses ça aussi, on est d'accord? Surtout en matière d'addiction, on est d'accord?
Oui, complètement. Ce qui nous permet de changer, c'est la motivation.
D'accord.
Il faut une motivation pour changer.
Motivation pourrait s'associer au désir un petit peu, oui, d'accord.
Complètement. Il faut une motivation, il faut un désir. Et à partir de là, on va utiliser la raison et la volonté.
D'accord.
La raison va nous aider à discerner, encore une fois, les désirs qui vont nous permettre de grandir, et la volonté de les mettre en acte. Donc, on a besoin de la raison et la volonté, mais c'est pas le moteur, tu vois?
D'accord.
C'est des choses nécessaires, mais pas suffisantes. Et il nous dit, il faut en plus un affect.
Un affect. Et pour revenir au bouddhisme, en fait, on appelle le bouddhisme la voie du milieu. Est-ce que, du coup, ça en fait la philosophie de la modération, finalement?
Alors, c'est vrai que le bouddhisme, c'est...
Ou alors de la sobriété, c'est ça, cette question.
Oui, mais c'est vrai, mais pas que le bouddhisme, hein, l'aristotélisme, l'épicurisme, etc. On pourrait dire qu'Épicure, c'est le philosophe de la puissance de la modération. C'est trouver toujours l'équilibre entre
de
deux
ce
extrêmes.
Que les gens pensent.
À l'inverse de ce que j'entends. Un équilibre entre les deux extrêmes. En fait, le Bouddha, il a vécu d'abord, faut regarder sa vie pour comprendre pourquoi il dit ça. C'est qu'il a vécu d'abord dans l'opulence, hein. C'était un prince, il avait tout ce qu'il voulait, tous les biens matériels, le succès, la renommée, tout. Et il n'était pas heureux. Du coup, il quitte son palais. Il va dans les forêts, il devient un ascète. Il mange rien, il bouffe des racines, il se flagelle, etc. Et tout. Il passe 10 ans, toujours pas heureux. Et donc, il comprend, en méditant profondément sur le sens de la vie, il comprend qu'il ne faut pas être dans les extrêmes. Et que le bonheur vient du juste milieu, un équilibre entre l'abondance des biens et l'ascèse qui n'est pas... Et là, on retrouve complètement Aristote. Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, qui est un livre qu'il faut que tu lises, c'est un des livres les plus passionnants de la philosophie, il réfléchit sur le bonheur. Hein, c'est quoi le bonheur? Et il nous dit que le bonheur est dans un juste milieu entre deux extrêmes. Il est lié à ce qu'on appelle la vertu. La vertu, c'est quoi? C'est un juste milieu entre deux vices. Alors, je te donne un exemple. Le courage, c'est une vertu. Le courage nous rend heureux. Le courage est nécessaire dans la vie sociale, etc. Mais le courage, c'est un juste milieu entre deux extrêmes. Le premier extrême, c'est la lâcheté, qui est un vice. Et le deuxième extrême, c'est la témérité, qui fait que tu vas mettre ta vie en danger. Et donc, il nous dit, la vertu, c'est un juste milieu entre deux extrêmes. Prenons un autre exemple, la tempérance. La tempérance, c'est modérer ses appétits sensibles. Eh bien, il dit, c'est un juste milieu entre deux extrêmes. Le premier extrême, c'est la débauche, c'est-à-dire aller vers le maximum de plaisir immédiat,
etc. C'est l'hédonisme, ça?
Et ça, bah, c'est une forme d'hédonisme, qui on refuse aucun plaisir. Et puis l'autre, c'est l'ascèse, refuser tout plaisir. Il dit, on n'est pas heureux ni dans l'un ni dans l'autre. On est heureux dans le juste équilibre. Et là, on rejoint Épicure, qui nous dit la sobriété heureuse. C'est-à-dire qu'on est heureux dans la qualité plus que dans la quantité. On est plus heureux de par partager un bon repas avec peu de mets de qualité, quelques bons amis dans un jardin, que de baffrer dans un palais avec plein de mets qui ne sont pas savoureux.
Et Pierre Rabhi, évidemment,
a repris cette expression.
Bien sûr. Ah, il l'a repris, lui, d'accord.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, il a formulé, sous cette formule, la sobriété heureuse, exactement la philosophie de Spinoza.
Alors malheureusement dans l'addiction,
pas de Spinoza, d'Épicure.
Malheureusement dans l'addiction, c'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, ce sont des gens qui ne peuvent pas modérer.
Il faut toujours plus, ouais.
Il faut toujours plus, ça veut dire qu'on est parfois obligé d'aller vers une sobriété totale, c'est-à-dire on appelle ça sobriété abstinence.
Abstinence, voilà. Et c'est l'abstinence qui permet de quitter l'addiction au produit.
Exactement. Donc ça, est-ce qu'il y aurait une philosophie qui pourrait aider les addicts, justement les dépendants, parce que dans la philosophie, on a l'impression que tout le monde pourrait modérer.
Mais non, mais c'est Spinoza. Il nous dit, il sort de cette éthique de la modération. Il nous dit, n'opposez pas si vous n'êtes pas capable, par exemple, de vous modérer.
Ah bah oui, bien sûr.
Et il faut quitter par un autre désir. Et donc, c'est toujours Spinoza. C'est-à-dire qu'il faut quitter, ce qui nous va mal par un autre désir qui fait qu'on pourrait être dans l'abstinence totale de ce désir parce qu'on va le compenser par un autre désir qui nous mettra dans la joie.
Toujours pareil, on ne peut quitter une addiction ou un désir mal orienté par la simple force de la volonté et la raison. Pour y parvenir, il faut mobiliser un affect positif plus puissant que celui à contrarier. Donc cette phrase de réorientation des désirs, en fait, je crois que c'est la clé de tout. La clé donc de la liberté. Tu as dit le but, le propre de l'existence serait de grandir en liberté et en amour. Donc c'est lié. Je pense qu'en mettant de l'amour dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on vit, ça nous rend libre.
Ah oui, je pense que quand l'amour est vrai, hein, parce que l'amour peut être illusoire.
Éviter
aussi.
Éviter les passions, justement, les passions tristes.
Ce qui nous rend esclaves, c'est la passion. Mm-hmm. La passion nous rend complètement esclaves. Donc, on n'est pas libre du tout dans les passions. On est compulsif, on ne peut pas s'empêcher d'appeler la personne, d'être mal. Bon. Alors que quand on est dans un amour vrai et qu'on n'est pas dans cette compulsion du désir, à ce moment-là, on est libre.
Alors malheureusement, je sais que nos auditeurs sont plutôt trentenaires, quarantenaires, je pense, mais pour les plus jeunes... Tu le dis très bien, je suis devenue heureux à 35 ans. Moi, je suis devenue heureuse plutôt à 40 ans.
On apprend à maîtriser ses passions.
Il paraît qu'on devient philosophe à 45 ans.
Aristote disait 45 ans.
J'ai 45.
L'âge où on a suffisamment vécu, compris, on s'est observé, on se connaît mieux. Et du coup, on est capable de faire les bons choix.
Donc, malheureusement, c'est quand même lié beaucoup à l'âge. Quand tu parles de passion, moi, à 20 ans, je ne voulais pas d'un amour.
Bien sûr, qu'il soit plus serein. Voilà. On ne cherche pas la sérénité, on cherche l'intensité.
Pas du tout.
Et c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, à force d'être malheureux dans l'intensité, on se dit qu'il y a peut-être un autre moyen de vivre des relations affectives qui nous épanouissent plus en profondeur, plus durablement.
Exactement. Pour terminer, je voulais savoir si tu savais que, comme tu as écrit un merveilleux ouvrage sur Carl Gustav Jung, si tu savais que Jung a été à l'initiation de pas mal de préceptes des alcooliques anonymes.
Oui, alors tu vas me dire lesquels, je sais que tu les sais.
Non, mais parce qu'en fait, c'est grâce à lui.
Les alcooliques anonymes se sont inspirés de Jung.
Exactement, parce que le célèbre psychiatre, il s'intéressait à l'alcoolisme dans les années 20. Et Bill Wilson, qui est le cofondateur des AA, des alcooliques anonymes, a écrit à Jung en 1961 pour exprimer sa grande gratitude pour ses efforts. Une certaine conversation que vous avez eue avec un de vos patients au début des années 30 a joué un rôle crucial dans la création de notre association. Son envie d'alcool était l'équivalent, donc ça c'est ce qu'a répondu Jung, hein. Son envie d'alcool était l'équivalent à un faible niveau de la soif spirituelle de notre être pour la plénitude, exprimée en langage médiéval, l'union avec Dieu. Alors nous, on dit qu'un addict, c'est un être spirituel qui n'aurait pas les bons outils. Et c'est exactement ce que dit Jung, c'est-à-dire qu'il va falloir de la spiritualité pour sortir de cet affect négatif.
Alors, je ne savais pas exactement ça. Alors, c'est tout à fait vrai par rapport à Jung qui nous dit qu'il y a une dimension spirituelle très profonde dans l'être humain qui doit être assouvie, sinon il cherche par des ersatz.
Exactement.
Mais avant Jung, c'est Platon qui dit ça, dans Le Banquet.
Oui.
C'est Socrate. Et donc, l'idée de Platon, c'est que notre héros, le désir, il s'oriente vers des corps. Et puis, à partir de la rencontre avec des corps, il va découvrir une âme. Et il va aimer et désirer une âme. Puis, à partir d'une âme, il va désirer la connaissance. Puis, il va désirer le beau en soi. Et c'est Dieu qui y a derrière tout ça. Donc, l'idée qu'il y a derrière la philosophie platonicienne, c'est qu'en fait, nous avons tous un désir infini parce que nous venons de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes tous des êtres spirituels et que nous avons, notre désir est infini. Et donc, aucune chose finie ne peut le satisfaire. Il n'y a que l'infini qui peut satisfaire notre désir. Et donc, tant qu'on n'a pas trouvé l'objet véritable de notre désir qui est Dieu, alors quand on dit Dieu, c'est même chez Platon, c'est le beau en soi, là en soi, c'est pas le Dieu forcément des monothéismes, c'est pas le Dieu barbu qu'on peut se représenter. C'est le bien en soi, le beau en soi. On aspire à la beauté infinie, à l'amour infini, etc. Qui est la définition même du divin. Et il dit, tant que, puisque nous sommes des parcelles du divin et que nous sommes enfermés sur terre dans ce corps, eh bien, nous aspirons à retrouver cette union avec l'absolu. Et donc, c'est pour ça que notre désir est infini chez l'être humain. Si tu observes chez les animaux, leur désir, il est fini.
Eh bien, bien sûr.
Il est fini. Seul l'être humain a un désir infini. Pour Platon, c'est parce qu'on vient de Dieu et qu'on aspire à retourner à Dieu, que notre désir le plus fondamental, c'est un désir d'absolu. Et tant qu'on ne l'a pas vécu à travers une forme de vie spirituelle, eh bien, d'une certaine manière, on ira nous enfermer dans des désirs finis qui finalement seront toujours insatisfaisants. Et d'ailleurs, la drogue ou l'addiction, c'est la recherche d'un infini.
Bien sûr.
Derrière tout ça, on recherche quelque chose d'absolu.
Les dépendants ont du mal à accepter souvent cette partie religieuse, entre guillemets, mais qui ne l'est pas, qui est spirituelle dans les groupes de dépendants, parce qu'on parle d'éveil spirituel. C'est-à-dire, sans éveil spirituel, ça va être très compliqué. C'est pour ça qu'aussi les gens y arrivent mieux souvent plus tard, quoi que ce n'est pas vrai, parce qu'on peut avoir des éveils spirituels à 5 ans. On a un point commun, il y a cette espèce d'agnostisme, mais en même temps mystique, qui est de vouloir bien être s'intéresser à tout ça, d'y croire parfois, d'y croire moins. Moi, je sens que parfois, il y a un éveil spirituel très puissant, une croyance dans le divin, et surtout celui de Spinoza, dans le dieu de nature, le dieu qui est en moi.
Du cosmique.
Oui, que moi-même, j'ai l'impression d'avoir une part divine et que tout est relié. Est-ce que l'unité serait la clé? Est-ce que c'est de mettre de l'amour, de passer de la peur à l'amour? Enfin...
Bah moi, j'ai écrit dans mes bouquins depuis 25 ans que tout le chemin de la vie, c'est de passer de la peur à l'amour et de l'inconscience à la conscience.
Voilà.
Je pense qu'on est sur Terre pour aimer de plus en plus et de plus en plus loin, et c'est sans fin. C'est infini l'amour, cette forme d'amour spirituel qui nous élève. Et puis, de passer de l'inconscience à la conscience, c'est-à-dire qu'on vit dans l'inconscient et progressivement, on met de la conscience. Et plus on met de la conscience, plus on est libre. C'est pour ça que je crois que c'est la liberté et l'amour qui sont les deux choses les plus essentielles, les deux valeurs les plus essentielles, et que plus on est libre, plus on est dans la joie, plus on aime, plus on est dans la joie.
Donc même sans être religieux, puisque tu ne l'es pas,
mais tout ça, c'est pas de la religion.
Voilà.
La religion, c'est juste la forme dogmatique, si tu veux, d'une aspiration au sacré, qui est très profonde. D'ailleurs, mon dernier livre, ça s'appelle L'Odyssée du Sacré, c'est de montrer que ce qu'il y a de premier, c'est le sacré, c'est-à-dire cette espèce de quête.
Depuis
la nuit des temps, de sens, d'infini que nous avons en nous. Et puis que ça a été ensuite géré dans les cultures par des religions qui gèrent le sacré, elles organisent le sacré. Mais ce qui est premier, c'est ce sentiment profond que nous avons en nous, et donc il faut bien distinguer notre besoin de sacré, notre quête spirituelle qui peut prendre des formes très diverses, des religions qui sont l'organisation collective du sacré.
Les rituels sont importants.
Mais on a besoin de rituels, mais trouvons des rituels qui nous personnels, c'est-à-dire qu'on peut chacun avoir nos rituels personnels de vie, qui ne sont pas forcément les rituels collectifs.
Contradictions, j'aime bien savoir quelles sont les contradictions de mon invité. Ça peut être justement souvent des rituels, mais donc passer de la peur à l'amour, passer de l'inconscience au conscient, tu nous l'as dit. Ouais, est-ce que tu as quelque chose de très concret à dire comme ça, qui toi par exemple t'empêche de faire des choses qui peuvent te détruire parfois?
Moi je crois que c'est peut-être la prière, c'est-à-dire que vraiment de me connecter à plus grand que moi, tu vois, et sentir qu'il y a une présence qui m'accompagne. Et je la nomme pas, hein, c'est-à-dire que je ne sais pas. C'est-à-dire que, comme je suis pas religieux au sens, mais le fait de penser qu'il y a une conscience plus grande que moi qui est là, qui m'accompagne, de penser qu'elle est là, puis qu'elle est pure, qu'elle est belle, tu vois, peut m'aider à ne pas faire certaines choses.
Ah, mais ça peut aider tout le monde, et j'aimerais terminer là-dessus, parce que c'est exactement un message comme ça que j'aurais eu envie pour cet épisode que j'ai trouvé passionnant. Ça m'a fait énormément plaisir de te
recevoir. En tout cas, Kéren, je ne te connais pas, hein, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais je m'aperçois que tu as vraiment une soif philosophique très profonde.
Oui, je veux
t'es
faire
habité
un DU,
par
là.
Ça. Ah ouais, non, mais tu es une philosophe, ça me fait très plaisir de te rencontrer.
Wow, merci beaucoup, Frédéric.
Merci.
Le Noir, c'était un plaisir.
C'était l'émission Contre Addiction avec Rose sur IDFM Radio. Rendez-vous lundi prochain de 21h à 22h.
Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et de Contradiction.
Retrouvez le podcast sur rose-lecite.fr et idfm98.fr.
Bonjour, c'est Jacqueline Voras sur IDFM Radio. Retrouvez-moi tous les mardis et vendredis matin de 9h30 à 11h dans l'économie en direct. Une émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise, aux artisans, aux associations, aux élus, aux instituts de formation. Bref, à tous ces passionnés qui participent à la vie économique ou politique du territoire. Alors, pour en savoir plus, n'oubliez pas, rendez-vous le mardi et vendredi de 9h30 à 11h dans l'économie en direct sur IDFM Radio.
Bonjour à tous, c'est Laetitia et Myriam sur IDFM Radio. On vous donne rendez-vous pour l'émission Femmes en Lumière tous les mardis à 18h.
Une émission dédiée aux femmes inspirantes et à leur parcours, à retrouver tous les mardis donc de 18h à 18h30. L'occasion de mettre sous les projecteurs les femmes de notre région et d'ailleurs.
À très vite sur IDFM Radio.
Bonjour, retrouvez-nous sur IDFM Radio tous les vendredis de 18h à 19h avec Toute la culture que j'aime.
Toute la culture que j'aime, c'est votre rendez-vous avec Marie-Laure et Agnès en alternance le vendredi de 18h à 19h. Nous partagerons nos coups de cœur.
Théâtre, littérature, musique, sorties.
Toute la culture que j'aime, c'est le vendredi de 18h à 19h sur IDFM Radio.
On se donne rendez-vous chaque lundi à partir de 22h avec moi-même Vince dans l'émission Positive Vibration Time pour un voyage musical qui prend son départ dans le ska jamaïcain pour arriver aux New Roots et au dub. Par le biais du format vinyle, je vous ferai découvrir des morceaux connus ou tombés dans l'oubli. Les dernières sorties d'albums et de singles, des exclusivités, des invités d'exception prêts à vous faire découvrir leur univers artistique. Grâce à des interviews et des lives, vous pourrez plonger dans les coulisses de leur création. Positive Vibration Time, tous les lundis de 22h à minuit sur IDFM Radio 98 FM.